commis à la manière d'une exécution secoue un quartier isolé de Los Angeles. Les enquêteurs mettent bientôt au jour une piste d'argent et de sang qui s'étend de Hollywood au Mexique. Quand les principaux suspects sont trouvés morts les uns après les autres, les procureurs se mettent à craindre que le cerveau de toute l'affaire ne soit jamais traduit en justice. Décembre 1988, un caméraman travaillant à Hollywood est trouvé assassiné dans sa maison du sud de la Californie. Il faudra plus de 5 ans aux enquêteurs pour faire comparaître un suspect devant les tribunaux. La procureure Janice Morrissey devra tenter de rendre justice à la victime à la suite de ce crime violent.
En tant que procureur, on voit les photos de la scène d'un crime. On est témoin de l'horreur de ce qui est arrivé à la victime. On voit l'impact de ce crime sur sa famille et sur la communauté. On sait que les victimes et leurs familles sont de vraies personnes. On ressent le besoin de tout faire pour que justice soit rendue.
En 1988, quelques semaines avant Noël, dans le secteur isolé de Sepulveda, à quelques kilomètres au nord de Hollywood, la police de Los Angeles enquête sur un homicide. Robert Samuels a été trouvé abattu d'un coup de feu dans sa maison. Sa femme, Mary Ellen Samuels, déclare aux enquêteurs que sa fille Melissa et elle se sont arrêtées chez lui pour y laisser leur chien. Elles ont alors découvert Robert gisant par terre, mort. Il semble que la victime a été attaquée juste avant d'entrer dans la pièce qui lui servait de bronzage. Même s'il paraît y avoir quelques dommages matériels plutôt mineurs, les enquêteurs constatent qu'il n'y a pas de traces d'entrée par effraction ni de cambriolage. Anne-Marie Hambly, la meilleure amie de Mary Ellen Samuels, arrive à la maison de Robert pour réconforter son amie. Elle est interrogée par les enquêteurs, mais elle ne peut donner d'informations sur le crime. On confie l'enquête de cet homicide à George Daley. L'une de ses premières tâches consiste à rayer les noms des membres de la famille de sa liste de suspects.
Dans la plupart des cas de meurtre, je dirais dans environ 85% du temps, la victime connaissait le meurtrier et ses complices.
On soumet Melissa, la fille de la victime et de Mary Ellen, à une analyse de résidus de poudre noire. Ce test permet de déceler toute trace de poudre explosive sur les mains d'une personne ayant utilisé une arme depuis peu. Mary Ellen Samuels accepte également de se soumettre au test. Dans les deux cas, les résultats sont négatifs. Aucune d'elles n'a utilisé d'arme à feu récemment. Ce soir-là, Mary Ellen accepte de se rendre au poste de police. Les enquêteurs veulent savoir si Robert aurait pu connaître son assaillant ou si Mary Ellen connaît quelqu'un qui aurait pu vouloir la mort de son mari. Elle déclare que son mari et elle sont séparés depuis 2 ans, mais qu'ils étaient toujours en bons termes. Elle mentionne plusieurs personnes qui pourraient en vouloir à son mari. Mais après vérification, ces pistes ne mènent nulle part. Lors de l'autopsie, on découvre que Robert Samuels a subi un violent coup à la tête avant d'être abattu par balle. La blessure indique que le coup lui a fait perdre ses moyens. Le coup de feu qui l'a ensuite tué a été tiré à seulement quelques centimètres de sa tête. Cela s'est produit entre 12 et 24 heures avant la découverte du corps.
Where was the entry point?
The entry point came in my through the eyes. He shot right through the head, through the pillow.
Des fragments de projectiles prélevés sur la victime indiquent que l'arme utilisée était un fusil de chasse de calibre 16. Le coup a été tiré à travers un oreiller placé sur la tête de la victime après sa chute au sol. Le meurtre semble avoir été commis froidement par un tueur à gages. La nouvelle de la mort de Samuels se propage rapidement. Robert Samuels était un caméraman respecté au sein de l'industrie cinématographique et il a travaillé sur des films comme Le ciel peut attendre, L'arme fatale 2 et La couleur pourpre. L'enquêteur Daley n'a guère d'indices pour faire son travail. On n'a trouvé aucune empreinte digitale, ni fibre, ni cheveux sur la scène du crime, et il n'y avait aucun témoin. Il se tourne alors vers la famille de la victime et rend visite à la sœur de Robert Samuels. Susan Conroy fournit un compte-rendu détaillé de la relation entre son frère et sa femme, Mary Ellen. Robert était amoureux de Mary Ellen depuis l'école primaire. Mais ce n'est que plusieurs années plus tard, après l'échec de son premier mariage, que les deux se sont retrouvés. Ils sont tombés amoureux et se sont mariés. Ils ont élevé ensemble la fille de Mary Ellen. Mais en 1987, Mary Ellen est partie subitement avec sa fille. Robert Samuels, selon sa sœur, était dévasté. Même s'ils étaient séparés, ils ont toutefois continué de s'occuper d'un comptoir de vente de sandwichs qu'ils possédaient à Van Nuys. Mais maintenant que Robert est mort, Mary Ellen est la seule propriétaire de l'entreprise. Quelques jours après le meurtre, l'enquêteur lui rend visite à son comptoir de sandwichs. Il lui demande la liste de ses employés pour les interroger, comme le veut la procédure. Mary Ellen promet de fournir cette liste sous peu. Elle accepte également de se présenter au poste de police pour y subir le test du détecteur de mensonges. Les enquêteurs lui disent qu'il s'agit d'une procédure normale. Le test est requis afin de rayer son nom de la liste des suspects. L'examinateur lui demande si elle a participé au meurtre de son mari. Elle répond par la négative. Il lui demande ensuite si elle connaît le meurtrier de son mari. De nouveau, elle répond non. L'examinateur conclut que Mary Ellen Samuels a répondu la vérité à toutes les questions qui lui ont été posées. 30 jours après le meurtre, Daley reçoit un appel d'une compagnie d'assurance. L'enquêteur de la compagnie veut savoir si Mary Ellen Samuels fait partie de la liste des suspects relativement à l'enquête sur ce meurtre. À titre de veuve de Robert Samuels, elle est bénéficiaire de polices d'assurance vie qui totalisent plus d'un demi-million de dollars. Daley apprend que les polices d'assurance vont régler les hypothèques du commerce et de la maison de Sepulveda dont Mary Ellen doit hériter. Daley informe l'enquêteur de la compagnie d'assurance qu'il ne dispose d'aucun indice à partir duquel il pourrait relier Mary Ellen au meurtre. Comme elle n'est pas soupçonnée, la compagnie d'assurance va pouvoir procéder au paiement. La valeur totale des polices d'assurance est supérieure à 600 000 dollars. Plusieurs mois s'écoulent sans qu'on trouve de nouvelles pistes. Le dossier de l'enquête est bientôt classé avec ceux des enquêtes non résolues. Mais Daley refuse d'abandonner, même s'il sait que plus le temps passe, plus ses chances de résoudre l'enquête diminuent. Il obtient son premier coup de chance quand une certaine Jane Stevens, une amie de Mary Ellen, lui transmet de nouvelles informations. Jane Stevens déclare qu'elle a rencontré Mary Ellen dans un bar quelques mois plus tôt. Toutes deux divorcées, elles ont discuté de leurs situations respectives. À un moment donné, Mary Ellen lui a dit qu'elle voulait éliminer Robert définitivement de sa vie et qu'elle devait emprunter 10 000 dollars pour payer un tueur à gages. Jane a ignoré ce commentaire en se disant que son amie avait sans doute un peu trop bu ce soir-là. Lors de l'interrogatoire, Jane mentionne également le nom d'un homme, James Bernstein. Elle affirme que Bernstein travaillait au comptoir de vente de sandwichs de Mary Ellen et qu'il était toujours son employé au moment du meurtre. Daley constate que le nom de Bernstein ne figure pas sur la liste des employés que Mary Ellen lui a donnée. Selon Jane Stevens, Bernstein était le petit ami de Melissa, la fille de Mary Ellen. James Bernstein accepte de venir au poste pour y être interrogé. Lors de la rencontre, il affirme ne rien savoir du meurtre de Robert Samuels. Mais Daley est convaincu qu'il en sait plus qu'il n'en dit.
Lors de mon enquête, j'ai interrogé M. Bernstein à quelques reprises. Et j'ai eu le sentiment, à un certain moment donné, qu'il pourrait m'aider à résoudre le meurtre de M. Samuels en me disant quel rôle il avait joué dans l'affaire. Ou quel rôle d'autres personnes avaient joué dans ce meurtre.
Daley décide d'examiner de plus près la relation entre Bernstein et Melissa Samuels. Il se rend à l'école secondaire de Melissa à Los Angeles, où il interroge ses camarades de classe. Ceux-ci lui parlent d'une rumeur qui circule, selon laquelle Mary Ellen, la mère de Melissa, aurait engagé un tueur pour faire abattre Robert Samuels. L'enquête commence enfin à progresser. Mary Ellen Samuels, qui commence à sentir la pression exercée par les enquêteurs, dépose une plainte auprès du capitaine de la section des homicides de Los Angeles, déclarant que Daley la harcèle. Comme elle ne peut fournir de preuves à l'appui de sa plainte, Daley poursuit son enquête. En mai 1989, 5 mois après le meurtre de Robert Samuels, Daley reçoit un appel d'un homme affirmant être un ami de Melissa. Il déclare que Mary Ellen lui a demandé de tuer son mari, mais qu'il a refusé. Il ajoute que James Bernstein lui a dit que le meurtrier de Robert Samuel s'appelle Mike Silva. Une vérification dans les registres permet de découvrir que Silva a un casier judiciaire pour des délits mineurs. Il vit juste à l'extérieur de Los Angeles. Après quelques mois décevants, Daley trouve plusieurs témoins qui affirment que Mary Ellen Samuels a planifié le meurtre de son mari. Mais l'enquêteur doit corroborer ces témoignages qui ne sont fondés que sur des oui-dire. En outre, un des témoins veut garder l'anonymat et le présumé meurtrier est intouchable, du moins pour l'heure. Après 5 mois sans piste, l'enquêteur Daley dispose enfin d'un suspect relativement au meurtre du caméraman Robert Samuels, sa femme, Mary Ellen Samuels. Des informations provenant d'amis de la suspecte, de connaissances ainsi que d'un informateur anonyme indiquent que Mary Ellen, avec l'aide de l'un de ses employés appelé James Bernstein, a engagé un certain Mike Silva pour tuer son mari. Mais les informations données sous le couvert de l'anonymat sont insuffisantes pour justifier l'arrestation de Silva. Delay analyse alors les relevés téléphoniques de la ligne résidentielle de Mary Ellen, du comptoir de Sandwich et de la ligne de Mike Silva. Il remarque que Mary Ellen et Silva ont appelé Bernstein à plusieurs reprises. Mais pour étayer la thèse du complot, il faudrait que Bernstein ait lui-même contacté les suspects, ce qui ne semble pas être le cas. Delay ne dispose toujours pas de toutes les preuves dont il aurait besoin pour faire avancer le dossier. Puis, le 27 juillet 1989, 7 mois après le meurtre de Robert Samuels, il reçoit un appel de l'appartement de James Bernstein. L'homme au bout du fil s'identifie comme étant le sergent Robert McFarland de Ventura County. Il dit à Delay qu'il se trouve à l'appartement de Bernstein relativement à une enquête pour homicide. L'enquêteur Delay va aussitôt le rejoindre sur les lieux. McFarland lui apprend qu'on a trouvé le corps de James Bernstein à Ventura County, à 160 km au nord de Los Angeles. McFarland dit à Delay que quelques semaines plus tôt, la police de Ventura County a reçu un appel d'un couple de randonneurs qui avait trouvé un corps momifié dans le canyon de Lakewood. Le médecin légiste de Ventura County a vite constaté qu'il ne serait pas facile d'identifier la victime, le soleil de la Californie ayant favorisé la décomposition du corps. Mais le rapport d'autopsie confirme que l'homme a été brutalement étranglé. Son larynx a été écrasé. Le médecin légiste de Ventura County a tenté d'obtenir une empreinte digitale à partir de la main momifiée de la victime. Au labo, on a retiré la main de la victime et réhydraté l'un de ses doigts. On a finalement réussi à obtenir une empreinte digitale. En introduisant cette empreinte dans un système d'identification informatique, les enquêteurs ont eu un coup de chance. Il y avait un rapport d'arrestation au nom de la victime. Il s'appelait James Bernstein.
Upon learning of the death of Mr. Bernstein,
quand on m'a appris la mort de M. Bernstein,
I figured, hey, that,
you know, mon cœur n'a fait qu'un bond. Parce que je me disais que l'une des personnes les plus importantes de notre enquête, ou du moins on croyait que cette personne serait importante, n'était plus là.
Les enquêteurs de Ventura ont trouvé un indice. Il s'agit d'une carte d'appel. Cela changera complètement le cours de l'enquête et permettra de découvrir comment les complices procédaient pour communiquer entre eux. Les enquêteurs savent maintenant pourquoi il n'y avait aucun appel à Mary Ellen et à Silva sur les relevés téléphoniques de Bernstein. Celui-ci utilisait une carte d'appel. On a presque réussi à faire la lumière sur le complot.
On a découvert qu'environ une demi-heure avant que Mme Samuels ne déclare à la police qu'elle avait trouvé son mari par terre, dans sa maison de Bahama Street, il y avait eu une conversation entre quelqu'un à la maison de James Bernstein, quelqu'un chez Mike Silva et quelqu'un au comptoir de vente de Sandwich.
La carte d'appel de Bernstein montre également que durant les derniers jours de sa vie, il a effectué des appels depuis la maison d'Anne Mary Hambly, la meilleure amie de Mary Ellen. Les enquêteurs de Ventura County et de Los Angeles décident de mettre leurs efforts en commun pour résoudre les deux crimes, soit le meurtre de James Bernstein et celui de Robert Samuels. Ils se rendent à la propriété d'Anne Mary Hambly, où ils trouvent dans le cabanon de son jardin un sac de vêtements ayant appartenu à Bernstein. Hambly est conduite au poste pour y être interrogée. À l'évidence, elle a été l'une des dernières personnes à avoir vu James Bernstein en vie. Dans l'espoir de faire la lumière sur ce complot, les enquêteurs offrent l'immunité à Hambly en échange de sa collaboration. Le sergent Robert McFarlane participe à l'enquête de Ventura County sur l'homicide de Bernstein.
Anne-Marie Hambly nous a dit que Mary Ellen Samuels avait convaincu Paul Gall et Darrell Edwards d'assassiner James Bernstein.
L'ami de cœur de Hambly, Paul Edwin Gall, avec lequel elle vit, et l'ami de celui-ci, Darrell Ray Edwards, ont touché chacun $5,000 de Mary Ellen Samuels pour tuer Bernstein. Avec le témoignage d'Anne-Marie Hambly, les enquêtes pour homicide menées à la fois à Los Angeles et Ventura County mène vers une seule et unique personne, Mary Ellen Samuels. Le 26 janvier 1990, Mary Ellen Samuels est arrêtée et accusée d'avoir participé à 2 meurtres dans des circonstances particulières en vue d'obtenir des avantages financiers. Elle est accusée d'avoir joué un rôle déterminant dans la mort de Robert Samuels et de James Bernstein.
Okay, sir, could you move just a little bit over to your left? Thank you.
Le même jour, la police arrête Paul Gall, l'un des 2 hommes soupçonnés d'avoir abattu James Bernstein sous les ordres de Mary Ellen. 5 jours plus tard, le complice de Gall, Darrell Edwards, entre dans le poste de police de Foothill et se rend aux autorités. Les enquêteurs cherchent de nouveau à interroger Mike Silva, l'homme qui, selon eux, aurait été engagé par James Bernstein pour tuer l'époux de Mary Ellen Samuels. Mais ils n'en auront pas l'occasion. Mike Silva est mort. Il a tué sa petite amie avant de retourner son arme contre lui. Les policiers interrogent à nouveau Melissa, la fille de Mary Ellen, mais elle ne leur fournit aucune nouvelle information. Et comme les autorités n'ont aucune preuve concrète de son implication dans les 2 meurtres, on choisit de ne pas porter d'accusation contre elle. Mary Ellen est détenue sans possibilité de libération sous caution à la cour municipale de San Fernando. Le sergent Robert McFarland de Ventura a mené l'enquête sur le meurtre de James Bernstein.
L'aspect le plus décevant de cette enquête, c'était le fait que toutes les personnes auxquelles on avait parlé au cours de 50 ou 60 interrogatoires savaient qui avait commis le meurtre de James Bernstein. C'était Mary Ellen Samuels. Mais pour nous, de la police, ces déclarations étaient insuffisantes. On devait trouver des indices pour corroborer ces témoignages.
Ces indices viendront de Paul Edwin Gall et de Darrell Edwards, qui sont accusés d'homicide au premier degré pour leur rôle respectif dans le meurtre de James Bernstein. Quand le procureur propose à Edwards et à Gall de réduire leur peine, ces derniers passent aux aveux et racontent ce qui est arrivé le soir de la mort de Bernstein. Gall et Edwards ont convaincu Bernstein de partir avec eux sous prétexte d'aller voler des stupéfiants. Ils utilisent une des voitures de Mary Ellen pour se déplacer. Les tueurs à gages reconnaissent qu'ils n'ont pas fait un boulot très propre. Ils ont tenté d'étrangler Bernstein dans la voiture et quand celui-ci est parvenu à descendre du véhicule, ils l'ont poursuivi.
Paul Gall est descendu de voiture. Il en a fait le tour et il a aidé son complice à faire tomber Bernstein sur la chaussée. Les 2 hommes se sont alors assis sur lui et l'ont étranglé. À un moment donné, ils ont cru qu'il était mort, mais Bernstein a alors tenté de se relever. Ils se sont de nouveau abattus sur lui et l'ont étranglé cette fois en le tuant pour vrai.
Au cours des mois suivants, l'enquêteur Daley prend sa retraite. L'affaire est alors confiée à la procureure Janice Morrissey et à l'enquêteur Terry Richardson. Morrissey sait qu'il sera difficile de convaincre le jury que Mary Ellen a planifié ces deux meurtres.
Plus j'enquêtais sur cette affaire, plus je réalisais à quel point Mary Ellen Samuels était douée pour convaincre les gens autour d'elle de faire ses quatre volontés. Toute personne qui peut convaincre quelqu'un de commettre un meurtre pour elle est forcément persuasive. Chaque fois que j'avais vu Mary Ellen Samuels avant le procès, elle avait l'air d'une femme tout à fait normale. Il n'y avait rien de menaçant dans son apparence, ni dans son comportement. J'en ai donc déduit qu'il nous serait difficile de convaincre le jury de sa culpabilité, après qu'il l'eût observée pendant des mois. Le jury ne la croirait jamais capable de commettre les crimes dont on l'accusait.
En raison de ses doutes, la procureure décide de proposer un marché à Mary Ellen. Mais la prévenue refuse aussitôt l'offre.
Je crois qu'elle était persuadée de pouvoir manipuler le jury comme elle l'avait fait avec tant d'autres personnes. Elle devait penser qu'elle s'en tirerait indemne.
Les procureurs n'ont aucun indice concret à présenter. On ne dispose pas de l'arme du crime ni d'indice judiciaire. L'assassin de Robert Samuels ainsi que l'homme qui l'a engagé sont morts. Et avec seulement quelques preuves indirectes et les témoignages de deux meurtriers avoués, Janice Morrissey devra travailler d'arrache-pied pour montrer au jury pourquoi Mary Ellen a comploté ces deux homicides et comment elle s'y est prise. En mars 1994, Mary Ellen Samuels comparaît devant le tribunal pour les meurtres de son mari, Robert Samuels, et celui du présumé complice de la prévenue, James Bernstein. Les médias surnomment Mary Ellen Samuels la veuve au billet vert quand ils découvrent que moins d'un an après le meurtre de son mari, elle a déjà dépensé plus d'un demi-million de dollars provenant des assurances et de son héritage. Au premier jour du procès de Samuels, la procureure Janice Morrissey retient l'attention des gens assis dans la salle d'audience avec ses déclarations. Des reporters de journaux à potins se précipitent aussitôt vers les téléphones pour transmettre ces informations. Lors d'un voyage à Cancun, un petit ami de Mary Ellen l'a photographiée nue, étendue sur un lit, le corps couvert de billets de 100 dollars. À peine quelques jours après la mort de son mari, poursuit Morrissey, Mary Ellen dilapidait son argent et menait le train de vie d'une reine.
J'ai fait agrandir cette photo et je l'ai montrée au jury en lui disant pourquoi je lui montrais cette photo. Je lui ai dit qu'en regardant cette femme assise là, il ne verrait qu'une femme au foyer ordinaire qui n'aurait jamais été capable de commettre pareil crime. Alors que sur cette photo, le jury avait un aperçu de la vraie personne qui était Mary Ellen Samuels.
L'avocat de la défense, Philip Nemeth, brosse un portrait différent de sa cliente lors de sa déclaration d'ouverture. Selon lui, cette femme mérite plutôt de la pitié, car elle a été trahie par des amis qui lui devaient de l'argent et pourchassée par un détective méprisant qui a gardé des photos qu'il avait trouvées d'elle en tenue légère. Nemeth concentre ses attaques sur les arguments de base des procureurs. Il soutient que les témoins de la poursuite n'ont aucune crédibilité. Il rappelle au jury que la plupart d'entre eux ont reçu l'immunité en échange de leur témoignage. Ce marché, explique-t-il, a encouragé les témoins à déclarer Mary Ellen coupable du meurtre de son mari, un mari qui l'a pourtant battue, elle et sa fille, pendant plusieurs années. La stratégie de Morrissey consiste à réfuter les allégations de la défense selon lesquelles Robert Samuels aurait battu sa femme en appelant l'enquêteur George Daley à la barre. Lors de l'enquête, celui-ci a interrogé Mary Ellen à propos de sa relation avec Robert.
Yes, she said that she loved Robert Samuels and that they had a good relationship.
Daley parle également des réponses de Mary Ellen aux questions relatives à la violence de son mari.
I don't recall her specific statement, but I do recall her saying something to the effect that there was no abuse, no smacking around.
Any further questions?
Le témoin suivant de Morrissey est Michael Taylor, un ex-employé du comptoir de vente de sandwich et un des amis d'école de Melissa. Par son témoignage, on apprend que les plans meurtriers de Mary Ellen étaient connus des amis de Melissa.
Please state and spell your name.
Taylor déclare avoir eu une conversation avec Melissa, la fille de Mary Ellen, peu de temps avant le meurtre de son beau-père.
She turned around and said, "Well, you can't tell anybody this." So I said, "Okay, fine, whatever." And she said, "My mom has somebody to kill my dad. Can you give me a gun? We need a weapon. Can you get me a gun?" And I was just like, I couldn't believe that. I told her that, you know, I couldn't.
Any questions?
Lors du contre-interrogatoire de la défense, Nemeth tente de miner la crédibilité de Taylor en remettant en question tous les événements de cette journée en particulier. Après 20 minutes d'un interrogatoire serré, il est évident que son témoignage tient la route. Morrissey appelle ensuite à la barre Jane Stevens, l'amie de Mary Ellen. Selon le témoignage de Stevens, Mary Ellen lui a dit qu'elle avait réussi à convaincre quelqu'un de l'aider à tuer son mari.
She said she met him at Denny's and she was going to give him the money and he was going to be the hitman.
Did she tell you how much money?
She said $10,000.
Morrissey cherche alors à connaître tous les détails de cette transaction.
Did she tell you anything about the payment?
Something in regards to what looked like advertising for the restaurant.
No further questions at this time.
Nemeth, l'avocat de la défense, fait le contre-interrogatoire de Stevens. Celle-ci reconnaît que Mary Ellen lui a prêté la somme de $2,500 pour l'acquisition d'une voiture, ce qui permet à la défense de soutenir que Stevens a tout intérêt à faire condamner son ami en raison de l'argent qu'elle lui doit. Lors de l'enquête portant sur le meurtre de James Bernstein, les shérifs de Ventura County ont interrogé Mark Johnson et appris que c'était lui qui avait appelé la police sous le couvert de l'anonymat et fourni le premier lien entre James Bernstein et Mike Silva. Il a laissé entendre que les deux hommes étaient tous deux mêlés à la mort de Robert Samuels. Les procureurs font appeler Johnson à la barre. Celui-ci déclare qu'un soir, sa petite amie et lui se trouvaient à bord de la voiture de Bernstein quand le téléavertisseur de ce dernier s'est mis à sonner. Johnson a vu le numéro. Bernstein a alors utilisé son téléphone portable pour organiser une rencontre. En arrivant à une station-service, Bernstein a ordonné à Johnson et à sa petite amie de se cacher. Johnson déclare qu'il a vu Bernstein traverser la route en direction d'une autre voiture et parler avec le conducteur du véhicule. Quand il est revenu, Johnson lui a demandé à qui il était allé parler. Bernstein lui a répondu qu'il s'agissait de Mike Silva et que c'était le meurtrier de Robert Samuels. Le témoin suivant appelé par la poursuite est toutefois beaucoup plus vulnérable à d'éventuelles attaques.
Plusieurs témoins de ce procès avaient accepté de témoigner en échange de l'immunité. Cela les rendait quelque peu suspects aux yeux des jurés, et avec raison. Malheureusement, quand on s'occupe d'une affaire comme celle-là, on n'a pas souvent des témoins crédibles, surtout s'ils ont participé à un complot qui s'est déroulé sur une importante période de temps.
Anne-Mary Hambly, comme plusieurs des amis de Mary Ellen, a accepté de se retourner contre cette dernière en échange de l'immunité. Elle déclare sous serment que bien qu'elle ait aidé Mary Ellen à planifier le meurtre de James Bernstein, elle a essayé de se distancer du crime en exigeant que Mary Ellen fournisse l'auto.
What did you tell the defendant?
I told her that Paul wanted to get the job done. Then he wanted to use my car. I did not want him to use my car. And she wanted to get Jim killed. She had to have her car used.
And did she agree to let you use her car?
Yes. Yes.
No further questions.
On a offert l'immunité à Anne Mary Hambly en échange de son témoignage relativement au meurtre de James Bernstein, parce que de toute évidence, elle savait d'avance que ce meurtre serait commis. Elle en a facilité l'exécution et aidé à éliminer les indices par la suite. Elle était présente lorsque les deux hommes ont quitté sa maison en compagnie de James Bernstein avec l'intention de le tuer. Elle était aussi là quand ils sont revenus sans lui.
Lors du contre-interrogatoire d'Anne Mary Hambly, l'avocat de la défense, Philip Nemeth, tente de miner sa crédibilité en la décrivant comme une amie des beaux jours qui devait de l'argent à la prévenue et qui s'est retournée contre elle pour sauver sa propre peau. Après avoir fait appeler 45 témoins à la barre pendant une période de 3 semaines, la poursuite conclut sa présentation. C'est maintenant au tour de la défense de présenter sa cause. Melissa, la fille de Mary Ellen, invoque le 5e amendement qui la protège contre l'auto-incrimination et témoigne en faveur de sa mère. Melissa, comme sa mère, réfute les témoignages de ses amis.
Yesterday, I believe it was Miss Marisi asking you why all of these people would lie either on you or your mother. Do you remember that?
Yes, I do.
Nemeth demande à Melissa si elle sait pourquoi Michael Taylor aurait menti.
Yes, I do.
What is that?
He stole money from the subway.
Melissa nie avoir demandé un pistolet à ses amis d'école. Elle nie également avoir dit à ses camarades de classe qu'elle aurait essayé de maquiller le meurtre de son beau-père en un vol qui aurait mal tourné. La défense passe alors à l'attaque comme la poursuite s'y attendait. La fille de Mary Ellen dit à la cour qu'elle a été battue et abusée sexuellement par son beau-père, Robert Samuels.
Did there become a time when your father's abuse became something different than physical?
Yes, there did.
And can you tell me the first incident that happened and how old you were?
I was 13.
Melissa déclare que son beau-père, Robert, l'a violée à 8 reprises entre 13 et 18 ans. Selon Melissa, Robert Samuels était un monstre et un alcoolique. Il aurait infligé des blessures mentales, physiques et sexuelles à sa mère et à elle.
La défense dans cette affaire semblait vouloir justifier le comportement de la prévenue du fait qu'elle avait été abusée. Mais de fait, elle disait « j'ai été abusée, mais je n'ai rien fait ». Cette approche de la défense était un peu étrange, car elle suggérait que Robert Samuels et James Bernstein méritaient d'être assassinés. Mais en même temps, on affirmait qu'on ne les avait pas tués, qu'on n'avait rien à voir avec cette histoire.
Le point culminant du procès arrive quand la veuve est appelée à la barre.
The defense calls Mary Ellen Samuels to the stand.
La procureure Morisi sait qu'elle est sur le point de se retrouver devant une adversaire redoutable et très rusée. Son habileté à manipuler les gens pourrait rendre des jurés sympathiques à sa cause et entraîner un acquittement. La cour est encore sous le choc après avoir entendu le témoignage de Melissa, qui a déclaré avoir été violentée et abusée sexuellement par son beau-père, ce qui étaye les allégations de la défense selon lesquelles Mary Ellen Samuels est la vraie victime dans toute cette affaire. Mary Ellen Samuels parle de ses 6 années de mariage infernal au cours desquelles elle a été battue et violée par son mari. Elle dit qu'elle a quitté Robert pour protéger sa fille, Melissa.
When he grabbed you and hit you that evening, did you have any bruises or marks the following day?
Yes, I did.
Can you describe the marks or bruises?
My arms were sore. I could hardly move them, and they were bruised. I didn't realize that I had black eye. It's the first black eye I've ever had in my life.
All right, no further questions. Prosecutor, your witness.
La procureure Janice Morrissey va retourner les propres mots de Mary Ellen contre elle en montrant une lettre qu'elle a écrite à son mari quand elle l'a quitté.
Where in this entire letter do you confront him with his abuse against you?
I didn't.
Morrissey commence à attaquer Mary Ellen en déclarant que la raison pour laquelle elle ne fait pas mention des abus de Robert, c'est qu'elle a inventé cette histoire de toutes pièces.
I didn't. That's not true. I didn't want to air on any dirty laundry on paper.
À un moment donné, elle a parlé d'un œil au beurre noir qu'elle avait eu, et elle a même demandé à un voisin de venir corroborer ce fait. Elle blâmait Robert Samuels pour cette blessure. Mais de fait, on a découvert qu'elle avait subi une intervention chirurgicale et que c'était pour ça qu'elle avait un œil au beurre noir.
Morrissey reste en mode offensif. Elle demande à Mary Ellen d'expliquer pourquoi elle a toujours affirmé que Robert n'était pas violent avec sa fille et elle. Pourquoi, si elle était vraiment victime d'abus, n'en a-t-elle jamais parlé à la police? Mary Ellen est accusée de meurtre en vue d'obtenir des avantages financiers. Si seulement un juré croit qu'elle a comploté le meurtre de Robert parce qu'il était violent, cela pourrait semer un doute raisonnable et entraîner l'acquittement de la prévenue. Dans sa plaidoirie finale, Namath affirme que la défense a démontré qu'il y a eu abus physique et sexuel. Il soutient également que la cause de la poursuite devrait s'appuyer sur des preuves matérielles. Or, la poursuite n'en a présenté aucune. Lors de sa plaidoirie, Morrissey dit au juré que Mary Ellen a inventé ces histoires d'abus en vue de s'attirer leur sympathie. Elle ajoute que la poursuite a présenté assez de preuves pour montrer que Mary Ellen a comploté 2 meurtres et qu'elle doit payer pour ses crimes.
This case does come down to credibility. And it is a matter of you deciding who you believe.
Le jury devra tenir compte de ses plaidoiries dans ses délibérations qui s'échelonneront sur les 18 prochains jours. L'attente est insoutenable. Mais les procureurs savent que les jurys doivent tenir compte de nombreuses accusations complexes et qu'il leur faut du temps. Finalement, le jury revient et déclare Mary Ellen Samuels coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, de complot et de sollicitation de complices. 2 jours plus tard, les jurés prononcent sa sentence, la peine de mort.
Je crois que Mary Ellen Samuels est exactement là où elle devrait être, c'est-à-dire dans le couloir de la mort. Je crois que nous sommes plus en sécurité maintenant qu'elle s'y trouve. Mais ce n'est pas quelque chose qui me rend heureuse. Il n'y a jamais de gagnant quand on s'occupe d'une affaire comme celle-là. Il n'y a que des perdants. Il n'y a qu'une immense perte et de la tristesse. Et on ne pourra jamais revenir en arrière pour les familles et les victimes de ces meurtres. Elle a pu dire adieu à sa famille et aux gens qu'elle aimait. Mais Robert Samuels et James Bernstein, eux, n'en ont jamais eu l'occasion.
Il y a peu de femmes condamnées à mort, mais leur nombre ne cesse d'augmenter. Depuis que la Californie a rétabli la peine de mort en 1977, une poignée de femmes seulement ont été envoyées à la prison de Chowchilla, où sont gardées les femmes en attente de leur exécution. Mary Ellen Samuels se trouve maintenant avec elle.